Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Les témoins de l'invisible vous sont présentés comme tous les mois par votre serviteur Christophe Jubien. Et pour évoquer la question des objets volants non identifiés qui nous occupent et nous préoccupent dans cette émission, eh bien c'est Joël Ménard, ufologue, c'est-à-dire un homme qui étudie les ovnis depuis plus de 40 ans, presque 50 ans désormais. Joël Ménard fut directeur de publication de la légendaire revue Lumière dans la nuit et puis auteur de plusieurs ouvrages dont je vous recommande le dernier, Les apparitions d'OVNI, publié au Mercure Dauphinois. Avec Joël Ménard, eh bien, nous étions en train d'évoquer la dernière fois la fabuleuse vague d'observation d'OVNI de septembre et octobre 1954 en France et dans toute l'Europe, mais surtout en France. Poursuivons donc plus avant dans l'examen de ces cas des années 54 qui sont des cas tout à fait fascinants, je trouve, parce que généralement ce sont des rencontres très rapprochées avec à chaque fois des personnages et surtout les ovnis posés à terre.
Oui, les ovnis posés à terre avec vision de personnages.
Ah oui.
Alors, mettons l'accent sur cet aspect du phénomène, ce qui n'empêche pas qu'il faudra dire deux mots de certains cas qui sont pas de ce type mais qui présentent néanmoins un grand intérêt, comme celui de Poncet-sur-Lignon. Alors, j'en reviens à ce qu'on appelle des RR3. Hein. Je rappelle que ce qu'on appelle RR3, c'est l'abréviation de rencontre rapprochée du troisième type, ça veut dire observation fait à distance pas trop grande de personnages, soit à bord de ces objets, soit à proximité d'objets posés au sol. Dans la banlieue sud de Toulouse, le 30 septembre, deux témoins observent deux objets brillants en forme de disque posés au sol à quelques mètres l'un de l'autre. Deux petits hommes ou personnages d'aspect plus ou moins humain, de la taille d'enfants de 12 ans, s'approchent comme pour engager la conversation, puis se séparent et chacun d'eux semble se fondre dans l'un des objets, non pas rentrer dedans, mais se fondre dedans. Ces personnages étaient vêtus de sortes de combinaisons ayant l'aspect de l'aluminium. La distance d'observation, dans ce cas-là, était malgré tout assez grande, de l'ordre de 400 mètres, ce qui est un peu trop pour qu'on puisse avoir des descriptions très précises. Les personnages étant montés à bord de ces objets se sont élevés et ont disparu très vite. La référence de ce cas, l'une des références au moins, la dépêche du 8 octobre 54. Mais avant ça, il y avait eu plusieurs autres cas très intéressants, notamment à Figeac le 27 septembre, vers 8h40 du matin, des enfants avaient vu un objet en forme de boîte. Alors c'est vague en forme de boîte, mais c'est tout ce que les enfants ont pu donner comme description. Et près de cet objet en forme de boîte posé au sol, il y avait un personnage. Et puis, ils ont vu l'engin décoller, ils ont pris peur, et l'observation s'est terminée là. Le même jour, le 27 septembre, à Perpignan, route de l'Assu, un étudiant a affirmé avoir vu deux personnages qui étaient sortis pendant quelques instants d'un objet circulaire posé au sol. Référence François du 2 octobre 54. J'en arrive à un cas qui s'est déroulé le 1er octobre 1954, vers 18h45, entre Vron et Ligescourt, à nouveau dans la Somme. Deux jeunes cultivateurs, René Condette et Bernard Devoisin, circulaient à bicyclette aux environs de Gironchaux lorsqu'ils ont vu à une centaine de mètres d'eux un objet lumineux de couleur orange immobilisé à un mètre au-dessus de la route. Il avait la forme d'une meule ou d'une ruche de 3 mètres de diamètre et de 2 mètres de haut. Les deux témoins, Condette et Devoisin, se sont approchés à une cinquantaine de mètres et ils ont découvert, près de cet engin, une créature de 90 cm à 1 mètre de haut, vêtue d'une sorte de scaphandre. Ce personnage est monté dans la soucoupe, puisque c'est le mot qu'on employait à l'époque. La soucoupe a décollé aussitôt en silence et elle a disparu. Parmi les références, on peut citer l'Oise Matin du 4 octobre 54. C'est important de dire deux mots des références, parce qu'il ne faudrait surtout pas que les gens aujourd'hui imaginent que tout ça n'était que des bobards, des racontars, des choses sans fondement. Ce sont des choses obscures sur lesquelles il est difficile de se renseigner et sur lesquelles il est hasardeux de se faire une opinion, mais néanmoins il existe des sources.
Oui, ce ne sont pas des rumeurs.
Ah, ce ne sont pas des rumeurs. Et ce sont des faits qui ont fait l'objet de publications à l'époque. Ils n'ont certainement, à quelques exceptions près, pas été étudiés comme il aurait fallu le faire, mais il y a une base objective, un fondement factuel à l'origine de ces affaires. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. Le 1er octobre également, c'est-à-dire le même jour, un quart d'heure plus tard, c'est-à-dire à 19h, à quelques minutes près, de nombreux habitants de la petite ville de Jussey, c'est dans le 70, c'est ce qu'on appelle en bon français la Haute-Saône. À Jussey, dans la Haute-Saône, de nombreux habitants ont vu un objet lumineux qui se déplaçait rapidement dans le ciel. Il venait du nord-ouest et deux jeunes gens affirment qu'il se serait posé et deux personnages de grande taille en seraient sortis. Toujours le même jour, 1er octobre, vers 20h, près de Saint-Jean-d'Angély, dans la Charente-Maritime, au lieu-dit la Roulerie, deux automobilistes voient un petit personnage traverser la route devant eux et disparaître. Le 3 octobre, il y a une observation à Bressuire, dans le 79, dans les Deux-Sèvres, pardon. Le 3 octobre également, à 0h15, autrement dit en pleine nuit, à Nivelles, près de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, un ouvrier métallurgiste, M. Marcel Sénéchal, circulait à bicyclette sur un chemin de halage quand il entendit un bruit de voix et découvrit dans un pré une boule de 3 mètres de diamètre près de laquelle deux êtres de 1 mètre de haut environ semblaient converser. Leur tête était très grosse, anormalement grosse par rapport à leur taille. Et leurs vêtements étaient plus ou moins lumineux. Monsieur Sénéchal s'est enfui, mais le matin venu, il est allé prévenir les gendarmes qui sont venus sur place, mais qui n'ont découvert aucune trace. Les sources concernant ce cas-là, c'est le livre de Garot et Lavier, aujourd'hui certainement très difficile à trouver, qui s'appelle « Face aux extraterrestres ». Le lendemain, 4 octobre 54, à Villers-le-Tilleul, dans les Ardennes, un enfant de 10 ans voit un objet qu'il décrit comme une, comme ayant la forme approximative d'une tente de camping, ce qui est vague. Là encore, l'absence de croquis est regrettable. Et près de cet objet se trouve un personnage au regard perçant, coiffé d'un casque carré et portant des vêtements à longs poils roux. Le même jour, c'est-à-dire toujours le 4 octobre 54, à Chalex, dans la Dordogne, un cultivateur, M. Garot, voit se poser dans sa propriété ce qu'il a appelé une soupière volante, dont il a vu descendre deux personnages vêtus de combinaisons kaki. Leur aspect était humain ou quasiment humain. Selon le témoin, ces deux personnages lui auraient serré la main et lui auraient parlé dans un langage incompréhensible.
C'est tout à fait extraordinaire.
C'est extraordinaire, mais souvenons-nous que le 10 septembre, à Mourieras, commune de Bugeat, le témoin Antoine Mazot, le très estimable Antoine Mazot, a raconté que le petit personnage qu'il avait croisé à la tombée de la nuit dans un chemin creux s'était approché de lui et avait, pendant un bref instant, comme mis sa tête sur l'épaule de Mazot. Donc il y a un précédent en matière de contact, contact très rapide.
Ouais.
Et Monsieur Garot, le témoin de Chalex, a raconté également que ces deux personnages avaient caressé son chien avant de remonter dans l'objet qui s'est envolé sans bruit et a disparu à une allure vertigineuse. La source est l'Oise Matin du 8 octobre. Je cite pas systématiquement les sources, et pour pas alourdir le récit, mais pourtant il serait presque souhaitable de le faire systématiquement, parce que, une fois de plus, l'existence de sources écrites de l'époque, est un élément capital si on veut se faire une idée de la valeur de tout ça. Et puis ça continue, toujours le 4 octobre, on trouve une observation à Saint-Perdoux, dans le Lot, une autre à Taupignac, en Charente-Maritime, je vous en dis deux mots. Trois personnes se rendaient en voiture à Breuillet. Tout à coup, ils remarquèrent une lueur rougeâtre, intense, immobile dans le ciel. Le conducteur arrêta la voiture et tous en descendirent. Ils purent alors observer à 10 ou 12 mètres du sol un engin rond de 6 mètres de diamètre environ, surmonté d'une coupole d'où sortait une lumière jaune-orange. L'appareil n'émettait aucun bruit. Quelques secondes passèrent et puis l'engin se déplaça horizontalement avant d'amorcer une descente pour atterrir derrière un petit bois. deux des automobilistes qui disposaient de lampes électriques. Il était 19h30, le 4 octobre, il fait nuit, se sont enfoncés dans le bois et ils ont découvert, dans un pré entouré d'arbres, l'engin autour duquel s'affairaient quatre petits personnages de 1 mètre environ. Ces deux témoins se sont dirigés vers les petits personnages, mais quand ils les ont vus, les petits êtres sont entrés précipitamment dans l'objet qui a émis une lueur bleue, puis orange, puis rouge, et qui a décollé sans bruit. On trouve mention de ce cas dans le journal Sud-Ouest du 9 octobre 54. Il y a ensuite Amégrite dans les côtes du Nord, ce qui s'appelle aujourd'hui les côtes d'Armor. Le 4 octobre, dans la soirée, un grand nombre de personnes voient passer une ou plusieurs soucoupes volantes dans le ciel. Vers 22h30, plusieurs groupes de témoins à Saint-Jacques-de-la-Mer et à Trégon voient pendant quelques instants un disque lumineux qui évolue dans le ciel, non loin de Ploubalet, et cet objet descend vers le sol et repart à grande vitesse. Le même objet, ou peut-être un autre assez semblable, est observé à la même heure à Lanvollon et à Perros-Guirec, mais à Maigrite. Maigrite, ça s'écrit M-E accent aigu G-R-I-T, à 7 km au sud-est de Jugon. Il y a une observation très intéressante ce soir-là. Monsieur Henri Lehérissé, cultivateur, âgé de 22 ans, sort vers 22h pour aller prendre soin d'une vache qui était sur le point de veler. Alors qu'il se trouve dans la cour de la ferme, il est surpris de voir à une vingtaine de mètres de lui, tout près d'un hangar, un objet lumineux en forme de coupole hémisphérique de 3 mètres de diamètre environ, reposant sur le sol par un trépied. La paroi de l'objet est au moins en partie transparente et M. Lehérissé peut voir à l'intérieur les silhouettes de deux personnages d'assez petite taille en position assise. Presque aussitôt, l'objet s'élève et s'éloigne très rapidement. M. Lehérissé n'avait disposé que de quelques secondes pour l'observer et il ne peut donc en donner qu'une description assez peu détaillée. Son témoignage est toutefois confirmé par deux autres, celui de l'abbé Bedel, qui à une centaine de mètres de là avait vu l'objet lumineux se déplaçant dans les airs, et un grenetier qui se trouvait sur la route de Jugon à Bronze, et qui avait lui aussi aperçu la chose. Monsieur Lehérissé a été effrayé par la vision de cet objet, on peut le comprendre. Il y a une quinzaine d'années encore, certains habitants de Maigrite se souvenaient de l'histoire et considéraient le témoin comme tout à fait digne de foi. Aucune trace n'a été constaté sur les lieux de cet atterrissage, puisque l'objet était posé au sol. Mais il faut rattacher ce cas-là à celui de l'Octudie qui s'est produit la même nuit à 4 heures du matin. Alors là, on n'est plus dans les Côtes d'Armor, on est dans le Finistère, mais c'est quand même pas très loin. Le 5 octobre, donc, vers 4 heures du matin, un ouvrier boulanger de 19 ans, Monsieur Pierre Lucas, était en train de faire son travail de boulanger, autrement dit en train de faire le pain. à Larvor, qui est un quartier de la commune de Loctudy, à 150 km à vol d'oiseau au sud-ouest de Maigrite, où s'est produit le cas précédent. Il est sorti vers 4 heures du matin pour aller puiser de l'eau à une pompe qui se trouvait dans la rue à une quinzaine de mètres de la porte du fournil. Quand il a eu fini de remplir ses seaux, il a commencé à revenir vers la porte pour rentrer les seaux, tout simplement. Et c'est alors qu'il a aperçu sur sa droite, en direction de la mer, un objet lumineux qui grossissait à vue d'œil. Il s'est demandé de quoi il s'agissait. Et la chose s'approchait tellement vite qu'au moment où il est arrivé près de la porte du fournil, il a vu l'objet qui s'apprêtait à atterrir de l'autre côté de la route, à moins de 20 mètres de lui. Alors, le jeune homme a pris peur, il n'a plus qu'une idée en tête, c'était rentrer au plus vite et fermer la porte. Il est donc rentré, devant lui il y avait un couloir, il a commencé à transporter ses deux lourds seaux d'eau dans le couloir, et alors qu'il allait descendre deux marches menant au fournil, il a senti une main se poser sur son épaule. Instinctivement, il s'est retourné et il a aperçu pendant un très bref instant le personnage qui était derrière lui. Il a été aussitôt pris de panique et il a lâché ses deux seaux en criant en breton pour alerter son patron qui dormait au premier étage. Il lui a dit, mais encore une fois en breton, ce que je ne saurais faire, « Descends, descends vite, apporte quelque chose, apporte un balai. » Le patron, réveillé en sursaut, M. Le Goff, est descendu aussi vite qu'il a pu, et dans le bas de l'escalier, il a trouvé Pierre Lucas, livide, crispé et tremblant, qui pataugeait dans les 30 litres d'eau répandus sur le sol du couloir. Le patron s'est précipité vers la porte d'entrée et dehors, il n'y avait plus rien, aucune trace ni de l'objet ni de la créature. Pierre Lucas lui a raconté ce qu'il venait de voir. Il allait mettre un certain temps à se calmer, à reprendre ses esprits, parce qu'il avait été très secoué par ce qu'il avait vu. Alors, il a décrit l'objet comme une demi-sphère dont la base était prolongée par un rebord plat. Et elle était, comme dans le cas de Maigrite, munie d'une sorte de trépied. C'est quand même curieux, on retrouve cette mention d'un trépied dans le cas de Maigrite au début de la nuit et dans le cas de Loctudy à 4 heures du matin. Dans les deux cas, l'objet a la forme d'une demi-sphère.
Oui, on peut imaginer que effectivement ces deux cas n'en sont peut-être qu'un, en tout cas concernant l'objet observé. Joël, on arrive au terme de cette émission qui, là, vraiment nous a, je pense, ouvert les portes de ce carnaval d'étrangeté, comme disait Aimé Michel à propos de 1954. Je pense que dans la prochaine émission, on évoquera peut-être les leçons à tirer de cet épisode de 1954 sur la diversité des personnages entreaperçus, des objets, et puis la furtivité extraordinaire. Hein. Le dernier cas dont vous avez parlé en est encore vraiment une preuve supplémentaire, puisque en l'espace de quelques secondes, eh bien plus rien, quoi.
Ce qui serait important de préciser à propos de ce cas de Loctudy, c'est que le lendemain, on a constaté la présence de traces très nettes au sol, à l'endroit où Pierre Lucas avait vu l'objet hémisphérique posé sur son trépied. Cette trace était constituée par une zone dans laquelle le goudron était fondu.
Un cas bien mystérieux, donc merci Joël Ménard. Enfin, tous les cas de 1954, le son, ils sont tous plus étonnants, extraordinaires les uns que les autres. On poursuivra d'ailleurs le récit de cette vague de 1954 dans 4 semaines lors de la prochaine édition des Témoins de l'Invisible. Chers auditeurs et auditrices, restez à notre écoute, les programmes de Radio Grand Ciel se poursuivent.
Thank you.